Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal Nico Kalambay. Huit personnes sont mortes dans un naufrage le week-end dernier sur les eaux du lac Albert dans les territoires de Mahagui, Djougou et Irumou. Ce bilan a été revu à la hausse après la découverte des 13 corps le samedi. Il n'y a jamais eu une quelconque collaboration entre les FARDC et un groupe armé. Réaction du porte-parole des opérations militaires Sokola 2 aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux et qui font état d'une éventuelle collaboration entre les FARDC et la milice NDCR de Bouira Gilbert. Le coordonnateur humanitaire en République démocratique du Congo est notre invité. Il parle de l'atelier d'opérationnalisation de l'approche Nexus, organisé du 26 au 28 avril à Kananga. Ce forum entend planifier les interventions de l'ONU après le retrait de la MONUSCO de la région du Kasaï. Bonjour et bienvenue à tous. Le président de la République et président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi Tshilombo, séjourne à Paris, en France, pour une mission d'État. Selon le protocole de l'Élysée, le chef de l'État aura un tête-à-tête avec son homologue Emmanuel Macron ce mardi, sous le coup de 13 heures. D'après certaines sources, ce voyage rentre dans le cadre des préparatifs du sommet France-Afrique prévu pour le 18 mai prochain. Le dit sommet s'inscrit dans le cadre d'un financement des économies d'Afrique subsaharienne. L'objectif fait-on d'apporter une subvention aux pays touchés économiquement par les effets de la pandémie de Covid-19. À Nitouri, 18 personnes ont perdu la vie dans un naufrage le week-end dernier sur les eaux du lac Albert dans les territoires de Mahagui, Djougou et Irumou. C'est le bilan revu à la hausse après la découverte des 13 corps le samedi. Selon les commissaires lacustres, ce drame est dû au vent violent qui a soufflé sur le lac Albert. Les autorités invitent les pêcheurs et les armateurs au respect du port des gilets de sauvetage lors de la navigation. Martial Kiza Biamongo.
Au total, 8 camps de pêche sont concernés par ces naufrages qui ont été enregistrés dans 3 entités territoriales de l'Ituri. Selon les commissaires lacustres de Kasséli dans les territoires de Irumou, qui citent des rescapés, un vent violent a fait chavirer plusieurs embarcations ce week-end. Il s'agit notamment des pirogues en provenance des camps de pêche de Djo, Lako, Nana, Chobia 1 et 2, Sabé, Kato et Kasséli. Bedidjo Ofoyuru indique que la majorité des victimes sont des pêcheurs qui ont été surpris par la tempête sur le lac Albert. Des sources locales affirment que d'autres corps continuent à être repêchés des eaux pendant que les recherches se poursuivent pour retrouver d'autres cadavres. Il y a eu 12 rescapés qui ont été repêchés par des pêcheurs pendant les naufrages, ajoutent des sources sécuritaires dans la région. Les commissaires lacustres de Kasséli rappellent aux pêcheurs l'obligation de porter le gilet de sauvetage pour prévenir les accidents sur les eaux du lac Albert. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Il n'y a jamais eu une quelconque collaboration entre les FARDC et un groupe armé, quel qu'il soit, parce que notre mission, c'est de les traquer tous. C'est la substance de la déclaration du porte-parole des opérations militaires Sokola 2, ce lundi sous Radio Okapi. Le major Njike Kaiko réagit aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux et qui font état d'une éventuelle collaboration entre les FARDC et la milice NDCR de Bouira Gilbert, en territoire de Walikale. Le porte-parole militaire des FARDC rejette toutes les allégations et appelle la population à ne pas croire à ces rumeurs infondées qui seraient l'œuvre de certains acteurs qui ne veulent pas se rendre compte de la réalité et qui cherchent à décourager les autres. Njike Kaiko au micro de Sifa Maguru.
Les forces armées de la République démocratique du Congo n'ont jamais collaboré avec un quelconque groupe armé. Il n'y a pas de cela très longtemps, les forces armées de la République démocratique du Congo ont mené des opérations contre les groupes armés MDC rénovés de Guidon. Et à cet effet, ces groupes se scindaient en deux, dont un groupe était favorable à la reddition pour venir déposer les armes et se rendre aux forces armées au regard du droit international humanitaire. Il est pratiquement inconcevable. En tant qu'armée professionnelle, s'attaque à un groupe qui est déjà dans le processus de reddition. Aujourd'hui, je vous dis que même si Guidon se disait favorable, ou Janvier Kalaire, ou les CMC de Domi, il suffit qu'ils se disent favorables au processus DDRRR et qu'ils déposent les armes, et nous ne pourrons pas nous attaquer à tous ces groupes. parce que c'est ça ce que nous exige les droits internationaux humanitaires, mais aussi les règles d'engagement.
À Beni, les activités socio-économiques ont repris depuis hier. Tout semble revenir à la normale dans la ville, même si certains commerçants disent craindre une reprise de ces manifestations, ce qui va davantage les affecter pour avoir déjà suffisamment perdu sur le plan économique durant ces villes mortes. Marc Maroufimbo, reportage.
Dans certains quartiers de la partie ouest de la ville, tels que Kalinda, Kangayembi, Boutil et autres, les magasins et boutiques ont réouvert leurs portes ce mardi matin. Les activités ont repris aussi dans les quartiers commerciaux de Matongé, qui est un centre de ravitaillement, cela après plus de 10 jours de paralysie due à ces villes mortes. Nous avons même pu rencontrer quelques marchands en provenance de Mabala, Koyemangina, venus se ravitailler ce matin en marchandises dans ces centres commerciaux. Ici, il y a encore des restes de barricades érigées par les manifestants qui sont encore visibles bien que écartés de la chaussée. Dans la partie est de la ville, sur le boulevard Nyamwisi ainsi qu'au marché central Kilokwa, tout se déroule aussi normalement. Les commerces qui n'ont pas ouvert lundi ont pu ouvrir ce mardi. Le seul constat est que les prix de certains produits sont montés en flèche. C'est le cas du prix du carburant qui est passé de 1700 francs à 1900, voire 2000 francs le litre. Ce qui s'explique par l'instabilité du taux d'échange, disent certains vendeurs et revendeurs de carburant. Beaucoup de commerçants disent craindre de nouvelles manifestations. Cela pourrait les affecter davantage pour avoir déjà beaucoup perdu sur le plan économique avec ces villes mortes, disent-ils. Beni, Marc Maroufimbo, Radio Okapi.
Le chef de l'État devra, dans son ordonnance sur l'état d'urgence dans l'est du pays, définir toutes les modalités pratiques d'exercice du pouvoir pendant cette période particulière en vue d'éviter tout dérapage par les autorités militaires qui pourront être nommées pour la cause. Cette réaction est du professeur Kaindo Mouessi, enseignant à l'Université catholique du Graben, au lendemain du discours du Premier ministre Samalou Kondé Kyenge, qui a annoncé une probable mesure d'état d'urgence dans les zones touchées par l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Je vous propose d'écouter le politologue Kaindo Mouessi au micro de Sadiki Aboubakar.
En fait, sur le plan théorique, normalement, le remplacement des autorités civiles par des autorités militaires, ça devrait arriver dans le cadre de l'état de siège, qui est aussi un moment particulier, et ça peut permettre à ce que les autorités civiles soient remplacées par les autorités militaires. À ma connaissance, pour ce qui est justement de la gouvernance provinciale, ça ne pourrait pas concerner les autorités qui ont été élues, en fait, telles que, normalement, le gouverneur, le président de l'Assemblée. Après, si ça devrait concerner les autorités de base, je vois ici le maire de la ville, son adjoint, le bourgmestre,
les administrateurs du territoire.
Mais s'il arrivait que justement les autorités veuillent faire passer ça dans le cadre de l'état d'urgence, comme cela semble se dire, il faudrait donc donner assez de précisions sur les contenus qu'il va pouvoir donner à l'état d'urgence décrété à la situation. Tout cela, c'est pour en fait éviter qu'il y ait des abus en matière de violation des droits de l'homme. On doit également dire sur quel domaine devra porter cet état d'urgence.
Il s'exprime un homme libre depuis le 9 avril dernier, jour de sa libération, Kongawi Bini Kombo, orphelin, arrêté à l'âge de 12 ans en 2010 lors du conflit opposant les Aignélés au Mont Zaïa dans l'ex-province de l'Équateur, a passé exactement 10 ans et 6 mois à la prison de Makala sans motif. Au cours d'une rencontre avec quelques journalistes, il relate aussi les mauvaises conditions carcérales dans la prison de Makala. Alain Irung était de la partie, je vous propose de suivre son reportage.
Il raconte avec beaucoup d'émotion les souffrances endurées pendant ses 10 ans d'incarcération à Makala. Kongawi explique comment il a été arrêté. Il était simplement au mauvais endroit, au mauvais moment.
Je suis allé chez ma tante maternelle à Dongo pour demander l'argent afin de payer mes études. Il s'est fait que le même jour, les policiers étaient en train d'arrêter les gens à cause des affrontements entre Aignélé et Monzaïa. Et moi, je n'en savais rien. Avant même d'arriver chez ma tante maternelle, j'ai aussi été arrêté.
Mais qu'en est-il des conditions de vie au sein de la prison de Makala? Il raconte.
On dormait dans de très mauvaises conditions. On mangeait un mélange de maïs et de haricots appelés vungulé une seule fois par jour. Quand l'occasion s'est présentée, il fallait boire beaucoup d'eau. Malheureusement, l'eau est devenue une denrée très rare à la prison de Makala. On était très nombreux dans les cellules au point qu'il fallait uniquement rester debout. Et à cause de cela, j'ai souffert de l'hernie.
Ayant été libéré une semaine après la fête de Pâques, Kongawi Binikombo, fervent chrétien catholique, se considère vraiment comme un ressuscité.
Au Congo, le vice-gouverneur Léopold Kangulumba vient d'être déchu par l'Assemblée provinciale. Sur les 21 députés provinciaux que compte cet organe délibérant, 14 sur les 20 ont voté pour la motion de défiance visant sa destitution et 6 ont voté contre. La dite motion a été initiée par le député provincial Willy Fayoulou, qui l'a accusé de plusieurs motifs, notamment l'outrage à l'Assemblée provinciale et le détournement des fonds publics. Irène Boma.
Léopold Kangulumba, vice-gouverneur de la province du Kwango, était visé par une motion de défiance lui adressée par le député provincial Willy Fayoulou depuis la semaine passée. C'est hier, lundi 26 avril, que cette motion a été examinée et votée par les élus du peuple dans la salle de plénière de l'Assemblée provinciale du Kwango à Kenge. À l'issue de ce vote, il se trouve que sur les 20 députés provinciaux présents dans la salle, plus de 2/3 ont voté pour sa déchéance. Le procès verbal de ce vote est lu par le président de cette organisation délibérant, Moulenga Upala.
Après dépouillement, les résultats s'affichent comme suit. Sur 21 députés qui comptent notre assemblée, 20 députés ont participé au vote. 14 députés ont voté pour et 6 députés ont voté contre. En conséquence, conformément à notre règlement intérieur à son article 144 alinéa 2, Monsieur le vice-gouverneur est réputé démissionnaire.
Signalons que Léopold Kangulumba, vice-gouverneur du Kwango déchu, a été accusé de plusieurs griefs, notamment l'outrage à l'Assemblée provinciale, l'insubordination à sa hiérarchie et le détournement des fonds publics, entre autres des 100 et des millions de francs congolais alloués à l'examen d'État édition 2019-2020. Irène Boma, Bandunduville Radio, Okapi.
Le président de la Fédération des entreprises du Congo, là nous sommes à Lubumbashi, plaide pour que ses membres investissent aussi dans les secteurs agro-industriels. Pour Albert Yuma, ils ne doivent pas seulement rester dans les mines car elles sont épuisables. Il l'a fait savoir ce lundi après sa rencontre avec le vice-gouverneur du Haut-Katanga. On écoute Albert Yuma, le président du patronat congolais, dans cet extrait choisi par Jean Gandou.
Nous étions là pour demander à nos membres d'avoir deux projets à impact pour la province, pour lesquels l'AFEC, accompagné de certains bailleurs, amènerait le financement en insistant sur des projets agro-industriels. Parce qu'il faut que les gens apprennent que les mines sont épuisables et qu'il faut aller maintenant vers des secteurs de la transformation. Surtout que notre pays a signé l'adhésion à l'accord de la zone de libre-échange africaine. Il faut avoir des produits à vendre aux autres et à échanger. Donc c'est pour ça qu'on pousse déjà nos membres et on demande l'accompagnement des gouvernements provinciaux pour aller dans ce type de projet. Et dans ce cadre-là aussi, nous avons insisté pour dire que nous souhaitons désormais que l'AFEC et sur le plan national et sur le plan provincial, participe en amont à la définition des projets et des politiques économiques dans les provinces. Donc on veut que nos membres soient associés de sorte que, un, nous avons des compétences locales, il ne faut pas toujours qu'on donne les grands projets aux entreprises étrangères. Et deux, c'est ça qui fera qu'on va accompagner le développement du pays.
Le premier salon du livre du Congo central ouvre ses portes ce mardi 27 avril au cours d'une cérémonie prévue à l'Institut supérieur pédagogique de Mbanzangungu durant 5 jours, soit du 27 avril au 1er mai. Les écrivains, auteurs, éditeurs et lecteurs venus de Kinshasa et des autres villes du Congo central vont échanger autour du thème « Aimer la littérature et oser écrire ». Le programme prévoit diverses activités, entre autres forums, conférences, expositions des livres, carrefours, projections des films et jeux concours. Ce salon littéraire est organisé par l'ASBL J'accuse ma génération, basé au Congo central. Son vice-président, Joyeux Ngoma Mbumba, parle de la motivation des organisateurs au micro de Jean-Marc Matouaki.
Il faut d'abord savoir que nous sommes passionnés de la littérature et pour nous, en fait, nous avons jugé bon de saisir en fait l'opportunité et puis de faire de la littérature notre champ de bataille. Donc c'est un peu ça, c'est qui nous motive aussi.
Actualité internationale.
En Mauritanie, les premières doses des vaccins livrées par l'Europe dans le cadre du programme COVAX sont arrivées lundi à l'aéroport de Nouakchott, en Mauritanie donc. Les doses sont offertes par la France dans le cadre du programme de développement pour les pays intermédiaires et à faible revenu. L'objectif est de fournir les vaccins contre la COVID-19 de manière équitable dans le monde. En Éthiopie, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est inquiété du désastre humanitaire au Tigré où le risque de famine est élevé lors d'un entretien hier lundi lundi avec le premier ministre éthiopien. Le chef de la diplomatie américaine a également appelé les troupes érythréennes à se retirer immédiatement, complètement et de manière vérifiable du Tigré.
L'invité.
Le coordonnateur humanitaire en République démocratique du Congo est notre invité. David Maklaklankar parle de l'atelier d'opérationnalisation de l'approche Nexus organisée du 26 au 28 avril à Kananga. Il explique que ce forum entend planifier les interventions de l'ONU après le retrait de la MONUSCO de la région du Kasaï. Ce haut fonctionnaire de l'ONU explique également que ce forum vise d'assurer la cohérence, la complémentarité et la collaboration entre les actions humanitaires du développement et de la paix au Kasaï. David Maklaklankar s'entretient avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour, monsieur David Maklaklankar.
Bonjour.
Vous venez de lancer l'atelier d'opérationnalisation de l'approche Nexus dans les Kasaï. À quoi consiste ce forum?
Alors, je suis venu de Kinshasa exactement pour ouvrir officiellement l'atelier Nexus avec le gouvernement du Kasaï central et du Kasaï. C'était un atelier de planification pour planifier le départ de la MONUSCO, mais aussi pour promouvoir l'approche Nexus dans la programmation à venir dans les Kasaï. Et c'est une opportunité avec le gouvernement, avec la société civile, avec les agences des Nations Unies pour planifier ensemble notre programmation pour les prochaines 3 à 5 ans.
Cet atelier a quelle incidence positive dans la perspective de la fermeture du bureau de la MONUSCO à Kananga?
Bon, la fermeture du bureau de MONUSCO à Kananga signifie bien sûr une nouvelle étape dans le développement des Kasaï. Ça signifie aussi que c'est déjà une zone pacifiée, c'est une zone post-conflit et c'est une zone qui devrait recevoir plus d'investissements dans le développement. On va maintenant essayer de rééquilibrer nos efforts pour le développement des provinces. Et on va continuer bien sûr l'assistance humanitaire, surtout pour la sécurité alimentaire. Mais on va augmenter l'investissement dans le développement du province, les investissements dans l'infrastructure, les investissements pour renforcer le système de justice, la police, la bonne gouvernance, l'administration, mais aussi renforcer les capacités des jeunes et des femmes de cette province pour participer dans l'économie et dans la société dans l'avenir. On a des programmations qui on dit que c'est la programmation Nexus qui va lier nos investissements pour le développement avec l'aide humanitaire pour la construction d'une véritable paix dans les Kasaï.
Qui prennent part à cet atelier?
Il y a 60 participants dans l'atelier aujourd'hui. Et ça va continuer pendant 3 jours. Aujourd'hui, on a eu comme la présence de Son Excellence, le gouverneur intérimaire et les hautes autorités de Chicapa aussi. Et ensemble, on a créé une plateforme où le gouvernement peut parler directement avec les chefs d'agence, avec la société et identifier ensemble les priorités pour le développement des deux provinces.
En marge de ces assises, quel message lancerez-vous à la communauté kasaïenne?
Mon message à la communauté kasaïenne serait simple. Le départ de la MONUSCO ne signifie pas du tout le départ des Nations Unies. On est ensemble. On va continuer notre travail ici après le départ de la MONUSCO. En effet, on va renforcer notre présence avec l'ouverture des nouveaux bureaux, par exemple, le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, la Banque mondiale, l'Organisation internationale pour la migration. Tous les trois sont en train, sont déjà ouverts des nouveaux bureaux. Alors, je dirais que notre présence ici sera renforcée et on va continuer à fournir l'assistance aux Kasaïens pour les prochaines 3-5 années.
David Maklaklankar, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
C'était un véritable plaisir d'être avec Radio Okapi aujourd'hui. Merci beaucoup.
Fin de ce journal, mise en onde par Alain Goy. Élisée Tchikota était à la coordination, Alain Irung à la supervision. Je me nomme Nico Kalambay. Je vous souhaite une bonne suite des programmes sur Radio Okapi. Vous pouvez réécouter ce journal sur www.radiookapi.net. L'information se poursuit également sur toutes les plateformes numériques.